Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Premier temps donc d'une série consacrée à l'Amérique du Sud, avant de nous intéresser demain à la fin du rêve des indigènes boliviens, mercredi au retour du militarisme de l'Uruguay au Brésil et enfin jeudi aux ressources maudites que sont la coca, l'or ou encore le pétrole, penchons-nous ce matin sur les effets du néolibéralisme et sur la crise sociale qu'il a produit depuis le Chili à l'Argentine. De la rue aux urnes, rejeter le néolibéralisme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'augmentation du prix des transports a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, ces manifestations sont aussi dirigées contre le catastrophique système de retraite.
C'est une contestation sociale, parce que nous n'avons pas été entendus depuis des décennies, et plus encore depuis la dictature, et que nous sommes sous la constitution élaborée par la dictature.
Nous suspendons l'augmentation des tickets de métro, ce qui va nécessiter une loi rapide, jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur un système qui protège les citoyens de ce type d'augmentation soudaine, due à celle du pétrole et du dollar.
On le voit dans les rues, il n'y a aucune chance que le mouvement de protestation diminue.
Le gouvernement n'écoute pas, il fait la sourde oreille, il se fiche de nous. C'est comme si on n'existait pas.
Depuis le début du mois d'octobre, le Chili connaît une vague de mobilisation très importante qui a réuni jusqu'à plus d'un million de personnes dans les rues de Santiago. En cause, l'augmentation de 30 pesos du ticket de métro pendant les heures de pointe. Mais derrière le refus de cette augmentation, c'est l'ensemble d'une politique qui est rejetée, celle de l'ultralibéralisme qui a mené à la privatisation de nombre de secteurs, la santé, la retraite, l'éducation, avec pour conséquence l'accroissement des inégalités. En effet, malgré une croissance très forte, le Chili est un des pays les plus inégaux de l'OCDE, avec 1% de la population qui concentre 25% des richesses. Alors, comment comprendre ce niveau d'inégalité? D'où vient historiquement ce néolibéralisme à l'origine du miracle chilien qui n'a pas profité à tous, visiblement? Et les Chiliennes, les Chiliens peuvent-ils espérer un vrai changement? Le président Piñera osera-t-il, pourra-t-il rompre avec plusieurs décennies d'orthodoxie néolibérale? On ira également du côté de l'Argentine, où là aussi le néolibéralisme a du plomb dans l'aile, à en croire en tout cas l'incapacité du président Mauricio Macri de se faire réélire, sanctionné dans les urnes. C'est donc Alberto Fernandez qui va prendre la destinée du pays en main, donc grâce à sa victoire au premier tour. Peut-on attendre une rupture là aussi en matière de politique économique? Ça reste à voir, d'autant qu'il est difficile de parler de rupture lorsqu'on sait que le futur chef de l'État a choisi comme vice-présidente une revenante, Cristina Kirchner, présidente de 2007 à 2015. Pour évoquer cet échec du néolibéralisme en Amérique du Sud, nous avons invité deux personnes. D'abord Olivier Compagnon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, enseignant à Paris 3 et à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, directeur du Centre de Recherche et de Documentation des Amériques. À vos côtés, un économiste, Carlos Kenan, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous arrivez tout juste d'Argentine. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine et vice-président de l'Institut des Amériques. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Chili? C'est quoi? C'est un mouvement social? C'est une révolution? Je prends ce terme-là parce que je lisais vendredi dans Les Inrocks une cinéaste chilienne qui s'appelle Marcela Saïd qui parlait précisément de révolution. C'est une révolution qu'il y a aujourd'hui au Chili, Olivier Compagnon? On va commencer par l'historien.
Je ne pense pas que ce soit une révolution, même si dans un certain nombre de groupes mobilisés aujourd'hui, on entend, je dirais, des slogans traditionnels appelant à la destruction du capitalisme. Mais il me semble pas que ce soit ça qui soit en jeu actuellement. C'est un mouvement social, et plus précisément, moi c'est ce que j'appellerais, avec un regard d'historien, une révolte anti-néolibérale, qui me rappelle beaucoup, dans la manière dont elle se déroule, ce qui a pu se passer à la fin des années 80 au Venezuela, ou dans une certaine mesure ce qui s'est passé à Buenos Aires en 2001. C'est-à-dire quelque chose de très spontané, qui n'est pas encadré par des partis politiques d'opposition ou par des syndicats, qui démarre souvent sur une annonce qui peut paraître presque anodine. Ici, l'augmentation du prix du ticket de métro, rejeté d'abord par les lycéens et les étudiants, comme au Venezuela en 1989, l'augmentation annoncée par le président de l'époque, social-démocrate Carlos Andrés Pérez, d'un certain nombre de produits de consommation courante. Et puis, d'un seul coup, un basculement qui est presque insurrectionnel parce qu'il est très, très radical. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, un mouvement social anti-néolibéral, comme on a pu en voir depuis la fin des années 80, très régulièrement dans un certain nombre de pays d'Amérique latine.
Carlos Kenan, comment est-ce que vous qualifiez le mouvement qu'on voit aujourd'hui au Chili ? Olivier Compagnon faisait le parallèle peut-être avec les mobilisations au début des années 2000 du côté de l'Argentine. Est-ce que ça vous semble être quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une révolte anti-néolibérale ?
Oui, d'un côté oui, parce qu'effectivement le Chili était en quelque sorte le modèle néolibéral par excellence en Amérique latine, et je dirais même réussi, c'est-à-dire le coup d'État de la dictature du général Pinochet avait réussi à changer la donne du point de vue de la dynamique économique, de nouveaux secteurs, de nouvelles caractéristiques, une restructuration sociale très importante aussi. Et donc là, on trouve maintenant, après plus de 30 ans de démocratie, finalement un rejet à un modèle économique et de société, puisque c'est un modèle où il n'y a pas de solidarité. Par exemple, tout est privatisé, les fonds de pension, la santé, si vous n'avez pas de ressources ou une assurance privée, vous êtes très mal. Donc il y a ça, disons, à mon avis, peut-être... ça montre aussi que le regard d'économiste, que la macroéconomie peut bien fonctionner, ce qui est le cas du Chili, mais pas la société, disons. Et du coup, c'est intéressant de ce côté-là. Dans le cas du Venezuela, il y avait les deux. C'est-à-dire, l'économie ne fonctionnait plus du tout. Déjà, il y avait une stagnation de l'économie depuis deux décennies au Venezuela. Et j'ajouterais que ça s'intègre aussi dans un contexte international où il y a un rejet des élites. Et il y a quelque part des éléments de communication entre, disons, ce qui s'est passé au Chili maintenant, l'Équateur récemment, mais aussi le Liban ou l'Algérie, enfin, c'est-à-dire, ou même les Gilets jaunes en France, c'est-à-dire une situation où n'importe quel facteur, disons, conjoncturel peut finalement générer une protestation plus généralisée.
Il y a évidemment un mouvement global, et d'ailleurs, Libération, la semaine dernière, essayait de dresser quelques parallèles précisément entre tous ces mouvements, avec la limite, bien sûr, de ce type de comparaison. On reviendra évidemment sur les questions historiques et savoir comment, effectivement, au moment de la dictature de Pinochet, on a enclenché un nouveau cycle en matière de politique économique. Mais si on en reste à maintenant, Olivier Compagnon, on voit qu'on a aussi une situation de... Vous parliez vous-même d'insurrection. Il y a évidemment une riposte policière qui est assez dure, hein, au Chili. On n'hésite pas. Là, on n'a pas hésité encore à tirer à balles réelles sur les gens. Il y a eu des morts. Jusqu'où est-ce que ça peut aller, cette escalade de la violence? Qu'est-ce qu'il faut craindre, là?
C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu pour déterminer ce qui va se passer plus tard. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que d'abord, le rapport de force est en faveur du mouvement social. Le million ou 1 200 000 personnes réunies il y a une semaine dans les rues de Santiago, si on rapporte ça à la population française, ça serait 4 millions de Français dans les rues, c'est-à-dire du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le rapport de force est tout à fait en faveur du mouvement social et en témoigne d'ailleurs la décision récente de Piñera d'annuler notamment alors le sommet de l'APEC, mais surtout la COP25, mais surtout la COP25, qui était pourtant un élément qui allait permettre justement de braquer les caméras du monde entier sur le Chili. Et de rapporter de l'argent, ce qui montre vraiment très bien que Piñera a une conscience très claire que le mouvement n'est pas terminé, et d'ailleurs on le voit dans la manière dont les mobilisations, les médias internationaux placent surtout la focale sur le cas de Santiago, mais le mouvement a gagné d'autres villes du pays, évidemment les grandes villes, Concepción, hein, qui est un centre industriel important, Valparaíso, mais aussi des villes du nord, Iquique, Arica, Antofagasta. Et aujourd'hui, il est certain en tout cas que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, on scrute avec attention les réponses que le gouvernement Piñera, après le remaniement partiel qui a été fait va apporter à cela.
Alors justement, Carlos Kenan, je me tourne vers vous, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. D'abord, on a effectivement changé quelques ministres qui posaient problème, et puis on a avancé des mesures. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Carlos Kenan, ce qui a été proposé par le gouvernement de Sébastien Pinera, et pourquoi ça ne suffit pas? Ce qui va nous permettre aussi de regarder quelles sont les revendications du côté du mouvement.
Disons que, bon, d'abord et surtout, ça a été, on a annulé les hausses des transports.
Ça, évidemment, c'était la première pierre obligatoire.
Et puis, on a également, disons, annoncé des allègements sur le plan, n'est-ce pas, des questions sociales et des éventuelles augmentations des salaires. Mais le problème de fond, c'est que...
Et des éventuels, ça a été fait. On a augmenté les pensions, on a augmenté le salaire minimum. C'est des décisions, c'est pas des
décisions.
C'est des décisions. Quand
mais et même des promesses de suivre sous cette percée-là pour améliorer la situation des différents secteurs sociaux.
Gel du prix de l'électricité, absolument. Augmentation des impôts pour les plus riches. Voilà, il y a des vraies réponses qui ont été avancées.
Des réponses, mais disons que encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ne suffisent pas puisque c'est le modèle de société qui est en cause. C'est-à-dire, on voit bien que, par exemple, une question qui avait été peut-être le premier élément de cette critique au modèle de société, qui était la révolte des étudiants d'il y a une dizaine d'années, et qui préconisait finalement un accès beaucoup plus large, voire gratuit, à l'enseignement supérieur, par exemple. Au Chili, c'est privatisé, ça aussi, du point de vue qu'il faut payer, disons, et très cher l'accès à l'enseignement universitaire, ce qui produit un gaspillage des ressources sociales des gens qui pourraient être, disons, des professionnels ou avoir une éducation plus approfondie qui ne l'ont pas. Tout ça, disons, est encore en suspens. C'est-à-dire que les mesures, la tentative de réforme qui avait été mise en place par Mme Bachelet n'ont pas abouti.
L'ancienne ministre chilienne.
L'ancienne présidente.
Présidente.
Oui. Et donc, du coup, et pourquoi ça n'a pas abouti? Parce qu'effectivement, il y avait ce système-là qui, enfin, en quelque sorte, un corset pour toute évolution et qui empêchait des transformations ou des ruptures. Et comme ça a été rappelé aussi, pendant longtemps, on a eu, disons, des sénateurs à vie, des militaires, toute une constitution organisée pour canaliser. Donc, ça ne suffit pas parce que, disons, je pense qu'il y a quelque part, disons, une perspective de refonte de la société chilienne qui est envisagée. Le problème, justement, ce qui se pose, c'est que ces mouvements sociaux, très importants, et bon, on ne voit pas très bien quelle est la conduction politique qui pourrait le faire déboucher sur quelque chose. Les partis traditionnels de gauche sont en crise, et en même temps, on voit bien que Pinera a réagi, mais peut-être, disons, lui-même n'a pas non plus des ingrédients, des éléments. Ce qui peut générer un risque aussi, qu'il ne faut pas écarter, c'est que ce soit Udi, l'extrême droite, qui, in fine, récupère l'affaire. C'est pas éliminer cette possibilité-là.
Olivier Compagnon, comment est-ce que vous voyez les choses? La réponse, visiblement, des manifestants aux réformes avancées par Pinera semble absolument pas suffire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est autre chose qu'on demande et quelque chose de l'ordre d'une réforme du système politique? Finalement, quelles que soient les décisions économiques et sociales qu'on prendrait, ça suffira pas.
Ce que demande la majorité des Chiliens mobilisés, c'est l'invention ou la réinvention, mais presque plutôt l'invention, hein, quand on rapporte ça à l'histoire longue du Chili, d'un État social, à proprement parler. D'un État social qui se montre capable de redistribuer dans un certain nombre de domaines les richesses produites par la mutation néolibérale. Il faut quand même rappeler, enfin moi je pense que c'est quand même le gros intérêt de s'intéresser au cas chilien aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que le Chili a été le laboratoire de la mutation néolibérale qui est aujourd'hui, totalement mondialisée. Et un laboratoire, Carlos le rappelait, dans un contexte autoritaire où justement, lorsqu'une réforme était envisagée, il n'y avait pas de mouvement social qui s'y opposait et qui ralentissait la réforme parce que c'était la dictature de Pinochet. Et que, deuxième élément très important, c'est que cette mutation néolibérale a été très consensuelle. Au sens où, à la fin de la dictature en 1990, on a deux gouvernements démocrates chrétiens qui perpétuent complètement la politique orthodoxe héritée de Pinochet, mais que surtout, dans les années 2000, lorsque d'abord Ricardo Lagos, puis Michel Bachelet accèdent au pouvoir, des socialistes, finalement, il n'y a pas de véritable remise en cause de ce modèle.
Pourquoi ? Parce que, alors pour toute une série d'années, d'abord parce que, Carlos le disait, d'un point de vue purement macroéconomique, il fonctionne. C'est-à-dire que quand on
les
regarde...
Les résultats sont là, donc il n'y a pas
alors, de changer. Les résultats, ça dépend comment on le regarde, ce modèle. Mais en termes de croissance, ouais. La croissance chilienne depuis 30 ans par rapport à la croissance française, elle fait envie. En termes de chômage, reste à savoir quelle définition on a du chômage, mais en termes de chômage, le taux de chômage chilien, il fait envie. Et donc, effectivement, c'est comme ça que, notamment des institutions internationales, ou des personnes comme Reagan ou comme Thatcher, ont construit cet imaginaire d'un modèle chilien qui incarnerait l'exemplarité des réformes néolibérales. Simplement, il faut regarder le revers de la médaille, on l'oublie parfois, et le revers de la médaille, c'est, effectivement, vous le rappeliez dans votre introduction, un indice de Gini, par exemple, qui est l'un des plus élevés du monde, l'un des plus élevés d'Amérique latine avec le Brésil, et qui est véritablement la conséquence de cela. Pas que de cela, parce qu'après, l'histoire des inégalités au Chili, c'est une histoire de temps très long. Donc, et là, je reviens à ce que disait Carlos à l'instant, c'est effectivement la gauche est en crise, mais je dirais que la gauche chilienne est en crise, comme dans une certaine mesure, la gauche française traditionnelle est en crise. C'est-à-dire que cette gauche chilienne n'a pas remis en cause ce modèle, pas davantage que le Parti Socialiste Français récemment ne l'a remis en cause, et à un moment donné, il y a un rejet global. Alors oui, des élites politiques, comme on l'a vu dans les années 90 au Venezuela, c'est ce qui s'est passé. Chavez, c'est le produit d'un rejet par la population vénézuélienne, de ce bipartisme vénézuélien entre sociaux-démocrates et démocrates chrétiens, qui de toute façon mettaient en œuvre à peu près les mêmes politiques. Mmh. Et je pense que voilà la situation chilienne. Et donc la grande question, tu as raison, Carlos, c'est de savoir comment cela va se cristalliser politiquement lors des prochaines échéances électorales.
Alors, on va y revenir, mais d'abord, vous avez fait effectivement un travail de retour en arrière qui est évidemment très important pour les auditeurs. Il faut peut-être rappeler qu'effectivement, au moment du renversement d'Allende, la mise en place de la dictature de Pinochet, on va avoir un virage libéral qui va être pris du côté du Chili, avec un certain nombre d'économistes influencés par l'école de Chicago qui vont débarquer pour justement mettre en place cette nouvelle économie, et avec un certain, à l'époque, Milton Friedman. Il s'explique justement sur ce soutien, alors je mets des guillemets, parce que lui, il refuse de dire qu'il s'agissait d'un soutien au régime de la dictature, mais en tout cas, écoutez-le, il revenait, c'était en 1991, il donne une conférence dans une université, et il s'explique justement sur ce virage néolibéral pris du côté du Chili.
Chile was a case in which
le Chili, sous régime militaire avec à sa tête Pinochet, a été prêt à abandonner un système de prise de décision verticale en matière économique et de laisser l'initiative venir d'en bas. Et dans ce processus de transformation, un groupe de personnes formées au département d'économie de l'Université de Chicago, les Chicago Boys, a joué un rôle important dans la conception et la mise en œuvre de réformes économiques. Le vrai miracle au Chili, ce n'était pas les réformes économiques qui ont d'ailleurs réussi. En Amérique latine, aujourd'hui, le Chili est sans aucun doute le pays le plus performant. Le vrai miracle est qu'un gouvernement militaire a été prêt à laisser cette réforme économique se réaliser.
Le vrai miracle est qu'un junta militaire était prêt à laisser le faire.
Carlos Quenin, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Comment ces économistes vont mettre en place une nouvelle politique économique du côté du Chili et aussi les effets. Parce que dans un premier temps, le miracle économique chilien, il n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ça ne se passe pas exactement comme on l'entend. Alors revenons un tout petit peu sur ce début. Comment est-ce qu'on pense et comment on déploie cette politique libérale au Chili?
Disons que c'est intéressant parce que ce que l'on appelle le cycle des politiques néolibérales et en Amérique latine, on pense aux années 80 et 90, c'est-à-dire après la crise de la dette, les pays latino-américains acculés à une situation, n'est-ce pas, d'ajustement et de transformation structurelle préconisée par le Fonds monétaire international. C'est l'Argentine, c'est le Mexique, etc. Mais le cas chilien, c'est en quelque sorte, disons, ce néolibéralisme avant la lettre, disons, avant cette situation de crise qui précipite, disons, la prise l'adoption de cette orientation. Alors, dans les années 70, en effet, on est en quelque sorte au tout début de cette émergence d'un courant de critiques aux politiques keynésiennes, à la présence de l'État. Thatcher est déjà sur scène et Reagan viendra bientôt. Et l'école de Chicago était connue par ses préconisations, surtout en matière de politique monétaire orthodoxe. pas tellement cette perspective, disons, de restructuration généralisée de l'économie, globale de l'économie, pour privatiser un certain nombre de secteurs, etc. Mm. Mais, justement, il se trouve que les militaires, soucieux de l'idée, ou chercher, c'est pour ça que l'affirmation de Milton Friedman n'est pas correcte, disons, c'est pas un miracle que les militaires aient laissé faire ces réformes, c'est que les militaires étaient à la recherche d'une perspective pour mettre en place une transformation radicale d'un système qui était celui du Chili, d'un régime capitaliste, mais très socialisé, en quelque sorte, à la suite du gouvernement du président Allende, l'unité populaire fameuse, n'est-ce pas, reconnue, avec une présence de gauche très forte, un gouvernement de centre-gauche ou de gauche, avec une présence de socialistes et de communistes à l'époque, en position de commande, notamment les socialistes, et qui s'insérait dans un conflit est-ouest aussi, ou capitalisme-socialisme, qui était vraiment au vif, disons, à ce moment-là, dans une situation très tendue. Donc, dans ces contextes-là, Allende avait mis en place, disons, des mesures de nationalisation, un approfondissement de la réforme agraire, et déjà mise en place par le gouvernement Frei, disons, le père de celui qui était président après, avec la transition vers la démocratie à partir des années 90. Donc, dans ces contextes-là, on cherche une source d'inspiration. Celle-ci est donnée par des, comme ça c'est vrai ce qu'il dit, par des Chiliens ou des gens qui ont été dans cette université-là. Pas tous. Parce qu'il y a les Chiliens qui ont suivi, disons, ces orientations-là, mais je connais très parfaitement Olivier aussi, Ricardo French Davis, qui était aussi étudiant à l'université de Chicago à cette époque-là, et qui est plutôt quelqu'un de l'aile gauche de la démocratie chrétienne, et qui n'était pas du tout dans cette perspective-là. Donc, cette convergence, et comme vous avez dit, ça n'a pas forcément bien fonctionné au début, parce que la libéralisation totale et les transformations mises en place dans les années 70 sont traduites, comme dans d'autres cas en Amérique latine, y compris en Argentine, à l'époque des militaires aussi de 70, par une grave crise financière et de la dette et bancaire en 82-83. Et ce n'est qu'après que, sans les Chicago Boys, avec une orientation ou une équipe plus pragmatique, on met en place des corrections à ces modèles trop libéraux initialement et sur différents plans.
Donc en réalité, la réussite, le miracle chilien, il est précisément d'avoir conscience à un moment que le virage néolibéral a peut-être été trop fort et donc on revient un tout petit peu en arrière. Olivier Compagnon, sur ce modèle qui est mis en place et sur son incapacité aussi à redistribuer les richesses, parce que certes, j'entends bien, le niveau de pauvreté au Chili a considérablement baissé. Quand on regarde les choses entre les années 70 et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. On avait 40% de pauvreté dans les années 70, on est aujourd'hui à moins de 10%, donc les choses se sont considérablement améliorées. Il n'empêche que les inégalités se sont également accrues. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce modèle, Olivier Le Compagnon ? Alors,
ce qui pose problème, je vais vous prendre un exemple très précis et qui renvoie à un passage antérieur de notre conversation. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'on a aujourd'hui une société qui est très largement bloquée, par exemple, par le fait que l'éducation n'assume plus sa fonction de possible ascenseur social, en quelque sorte. Mmh. Ça, c'est vraiment le produit d'une grande loi de décentralisation de l'éducation à la fin des années 1970, donc sous Pinochet, qui n'a jamais été véritablement remis en cause, même si Michel Bachelet, dans son second mandat, a apporté un certain nombre de corrections. Et cette loi, en fait, je dirais, dessaisissait l'État de cette mission éducative, notamment dans l'enseignement primaire et secondaire, pour transférer la responsabilité très largement aux municipalités. Et là, donc, commençait à se jouer des écarts très naturels. Les municipalités les plus pauvres avaient du mal à entretenir un système d'éducation publique. Ça ouvrait un boulevard évidemment à l'enseignement privé et on s'est très rapidement retrouvé dans un contexte où effectivement les classes les plus démunies, ou je dirais même les classes moyennes inférieures, n'avaient d'autre choix que d'aller dans cette éducation qui de toute façon leur fermait les portes.
Donc problème au niveau de l'éducation.
Donc première au niveau, voilà, qui se traduit aussi dans l'éducation d'enseignement supérieur où aujourd'hui c'est quand même très compliqué, sauf si on est issu des classes les plus favorisées, de faire des études sans s'endetter. Hein. Et donc là, on a aussi toute une mécanique qui est soutenue aujourd'hui par le système bancaire, etc. Et donc, au fond, le gros problème aujourd'hui, alors, c'est d'une part, effectivement, le fait que c'est une société alors inégalitaire et par ailleurs bloquée, même si la pauvreté, vous l'avez rappelé, a diminué, et d'autre part que cette logique de marchandisation de la vie quotidienne n'a cessé de s'approfondir, et on va venir rapidement à l'Argentine, j'imagine, là-dessus, l'électricité, l'eau, etc., etc., au point que aujourd'hui, des ménages non pas complètement démunis, mais de classe moyenne, sont contraints de s'endetter pour faire face à des augmentations récurrentes du prix de l'eau, du prix de l'électricité, etc., etc. C'est-à-dire que c'est en gros un État qui a complètement renoncé à assurer un certain nombre de services publics sur des données basiques de la vie quotidienne.
Encore un dernier échange, je vais vous faire intervenir sur ce point-là tout de suite l'un et l'autre. Carlos Kenan, est-ce qu'on peut changer les choses ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rectifier, corriger le système qu'est-ce qu'il va falloir pour ça ? C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure du régime aujourd'hui chilien. Est-ce qu'il va falloir modifier le système politique, modifier la constitution pour parvenir à enclencher ces réelles réformes structurelles dont on a besoin ? Est-ce qu'en l'état, on peut corriger, ajuster les choses ou ça suffira pas ?
Disons que, d'abord, juste un point de complément à ce qui a été dit par Olivier Compagnon, et un élément qui contribue au caractère plus conflictuel aujourd'hui de la société chilienne, c'est le fait que la dynamique de croissance qui a été très forte pendant les années 80, après les corrections dont on a parlé, 90 et 2000, d'ailleurs, sous les gouvernements démocratiques qui ont été au pouvoir à ce moment-là, eh bien, cette dynamique de croissance est un peu aussi bloquée. C'est-à-dire que le Chili n'est plus un pays de croissance de 5, 6, 7% par an. Il est à 2, 3%. Ce qui est bien dans le contexte de la dynamique actuelle.
Comme toute la région.
Oui, comme tout le monde.
Mais il est plutôt un régime de croissance qui est arrivé à maturité. Et donc là, effectivement, ça donne moins de marge.
Est-ce qu'on peut corriger Carlos Kenan?
Alors, je pense
et par quel type de réforme politique institutionnelle il faut passer?
Je pense que le Chili, évidemment, est confronté à une situation d'inflexion sur le régime politique, économique et social. Ils ont une réforme constitutionnelle, les réformes non achevées de la période, notamment Bachelet, dont on a parlé, la réforme de l'éducation, la fiscalité était aussi dans le programme de Madame Bachelet, parce que, mais comme ça a été rappelé, il y a des fortes résistances. C'est par cette voie-là que l'on pourrait avoir. Mais j'insiste sur le danger que s'il n'y a pas un courant de progrès sur ce plan-là et qui cristallise sur le plan politique, qui peut permettre d'offrir des débouchés politiques, eh bien, on peut avoir aussi, parce que c'est les changements
des relais politiques, vous dites.
Voilà. Et puis les changements culturels qui a été fait aussi a généralisé une conception, on va dire, de droite très forte dans certains secteurs sociaux privilégiés et qui pourrait réagir aussi.
Ouais. Olivier Compagnon, est-ce que c'est pas ça précisément le problème, cette difficulté à avoir des relais au niveau politique? Le système chilien, c'est un système qui est particulièrement fermé. Alors certes, ces dernières années, un certain nombre de nouveaux partis, disons, qui sont arrivés dans le paysage politique, mais il y a quand même une grande difficulté à faire émerger, finalement, de nouvelles forces. Est-ce que c'est pas ça le problème? Ce système cadenassé au Chili?
Alors, je suis pas certain que le système des partis soit complètement cadenassé et qu'il n'y ait pas la place pour un parti qui soit porteur d'un véritable projet de construction d'un État social. Je crois surtout que face à un tel projet, il y aurait beaucoup de résistance, parce que là, évidemment, on s'imagine la société chilienne insurgée contre Sebastián Piñera, mais n'oublions pas quand même que Sebastián Piñera est le produit du suffrage universel, l'a été à deux reprises, et qu'il bénéficie aussi de soutien. Soutien, évidemment, de secteurs industriels, miniers, bancaires, militaires aussi.
J'entends bien, mais attendez,
mais aussi d'une partie de la population qui, elle, s'est tout à fait accoutumée ou acclimatée à la société de consommation, y compris assez inégalitaire, etc., etc.
Mais attendez, alors, il fut un temps que ce sont les partis de gauche, le parti socialiste, avec cette ambition progressiste et sociale, Lagos, Bachelet, ils ont permis.
Mais ils n'ont pas remis en cause.
D'avoir des victoires par les urnes. Je veux dire, ils n'ont pas changé les choses.
Non, Lagos et Bachelet n'ont pas changé les choses aussi parce que, effectivement, ce serait remettre en cause un héritage de la dictature auquel l'armée est extrêmement sensible, et il reste quand même, ce que rappelait Carlos tout à l'heure est très important, Carlos Kenan tout à l'heure est très important, on vit toujours au Chili sous une constitution qui était adoptée sous la dictature en 1981, où l'armée, évidemment, est dans les casernes aujourd'hui, mais continue d'observer avec une attention très forte la vie politique, et d'ailleurs mobilisée lorsqu'il s'agit de préserver le modèle face à la contestation sociale, comme on l'a vu il y a quelques jours. Et par exemple, l'une des difficultés d'une réforme constitutionnelle qui ouvrirait la voie à une rupture symbolique avec l'héritage de la dictature, c'est effectivement quelle serait aujourd'hui la réaction de l'armée dans cette rupture que cela constituerait par rapport au passé.
Carlos Kenan, très rapidement, parce qu'après il faut qu'on parle de l'Argentine.
Justement, l'armée est tentée rapidement de réagir de manière violente face à l'insurgence, qui peut être une situation que l'on ne verrait pas en Argentine aujourd'hui, parce que là, il s'est passé pas mal de choses pour ce qui est du rôle de la situation de l'armée dans la société. J'ajoute, et ça me semble très important, que pour qu'il y ait cette perspective politique nouvelle, il faut peut-être plus de Lagos ou de Bachelet. une relève générationnelle, une nouvelle génération de politiques qui émerge, mais non sans difficulté, parce que l'ancienne génération était très, très influencée par l'idée, bon, il y a les rapports de force, les militaires ont gagné, il faut se bouger dans les contextes de ces contraintes-là. Et d'ailleurs, les premiers responsables économiques dans les années 90 étaient sous la menace du discours de la droite qui disait, regardez, ils vont faire des bêtises très vite. Et ils vont, alors, donc ils étaient presque plus orthodoxes parfois que les orthodoxes de droite.
On va parler donc de l'Argentine. On rejette le néolibéralisme dans la rue, mais aussi dans les urnes. C'est le cas du côté de l'Argentine où le 27 octobre dernier, le président argentin Mauricio Macri a perdu l'élection au premier tour contre son rival de centre-gauche, Alberto Fernandez.
Nous allons reconstruire une Argentine égalitaire et solidaire dont nous rêvons tous. Je m'y engage et j'espère que nos opposants, quels qu'ils soient ces quatre prochaines années, auront conscience de ce qu'ils nous ont laissé et qu'ils nous aideront à reconstruire le pays.
Voilà, reconstruire le pays. Olivier Compagnon, est-ce bien nécessaire de se demander si la victoire d'Alberto Fernandez est directement liée à l'échec de la politique économique de Mauricio Macri ? La réponse est évidemment oui. Question suivante ou pas ?
Question suivante.
Alors, quand même.
Oui, pourquoi? Évidemment. Je trouve très intéressant, c'est l'élection d'Alberto Fernandez, mais évidemment, derrière, il y a la figure de Cristina Kirchner comme vice-présidente. Une Cristina Kirchner qui avait quand même été victime d'un rejet extrêmement fort il y a 4 ans. Rejet lié à la fois au désir d'alternance d'une société politique démocratique tout à fait normale, rejet pour toute une série d'autres raisons, une forme d'impasse économique des dernières années du kirchnerisme, et puis toute une série de rumeurs ou de scandales avérés de corruption qui fait qu'à un moment donné, Cristina Kirchner n'était plus la bienvenue. Pour qu'elle revienne, alors certes, ce n'est pas elle qui revient, mais enfin quand même, son ombre pèse lourdement sur Alberto Fernandez.
Et par ailleurs, la victoire de Fernandez est aussi liée au soutien de Kirchner. Oui, il n'aurait peut-être pas gagné, en tout cas pas aussi facilement s'il n'y avait pas le soutien.
Ça montre quand même l'ampleur du rejet des années Macri par la société argentine. Et je crois que là, pour le coup, ce rejet, il ne faut pas aller le chercher très loin, effectivement. C'est la crise économique dont l'Argentine n'est pas sortie et qui a aujourd'hui plongé les classes moyennes argentines dans une situation qui rappelle... divers épisodes de l'histoire économique argentine, mais notamment les années 90. Aujourd'hui, il est redevenu commun dans les classes moyennes argentines d'avoir deux jobs, un job celui qu'on avait avant, et puis le job qu'on fait la nuit pour réussir tout simplement à finir les fins de mois, etc. Une inflation absolument galopante, et une incapacité de Macri, malgré le prêt record qui lui a été accordé par le FMI de 57 milliards d'euros, à finalement relancer une croissance sur un modèle néolibéral, c'est-à-dire en gros rétablissement des grands équilibres, stabilisation du peso, stabilisation de l'inflation, attirer les investisseurs. En fait, les investisseurs ne sont pas venus. Alors après, pourquoi ne sont-ils pas venus? Est-ce qu'ils ne sont pas venus parce que l'Argentine, au fond, a aujourd'hui l'image d'un pays beaucoup trop instable économiquement pour qu'on s'y installe durablement? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour répondre à vos questions, oui, évidemment, là, il y a un échec très clair de la relance néolibérale de Macri.
Alors, Carlos Canan, on va évidemment regarder ce que sont les défis économiques et sociaux qui sont absolument colossaux d'Alberto Fernandez, mais quand même, sur... Ce ticket que Fernandez a fait avec Cristina Kirchner, comment le comprendre, comment il faut l'interpréter? Parce que c'était assez inattendu. D'abord, ils n'ont pas tout à fait la même vision l'un et l'autre. Et voilà qu'un beau matin du printemps dernier, elle apporte son soutien à Alberto Fernandez et il semble apparaître que s'il n'y avait pas eu ce soutien-là, il n'aurait peut-être pas gagné, en tout cas pas au premier tour comme ça. Enfin, cet attelage-là, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'Argentine? Est-ce qu'on est dans une situation où finalement, précisément le fait que peut-être qu'on est là dans une situation totalement inédite où on va faire une vraie belle coalition, on va ramener tout le monde autour d'un projet commun qui est celui de remettre l'Argentine sur pied, ou est-ce qu'on est dans une situation où on va droit dans le mur parce que précisément on a des visions qui sont totalement divergentes et qu'on va pas y arriver, on ne peut pas y arriver?
Les deux sont possibles, bien évidemment, de scénarios là. En fait, disons, sur le ticket, le premier aspect de la question, et c'est un ticket effectivement qui surprend tout le monde en milieu du mois de mai dernier, mais dont on pouvait voir quelques prémices, disons, s'installer, puisque Alberto Fernandez, qui avait été ce qu'on appelle en Argentine ministre coordinateur ou chef du gouvernement, sans être premier ministre, disons, pendant les quatre années du gouvernement de Néstor Kirchner, 2003-2007, et puis les presque deux premières années de Cristina Kirchner, 2007-2008. Donc,
qui était le mari de Cristina, pour les auditeurs.
Hein. Néstor Kirchner, oui, qui est décédé en 2010, voilà. Et qui fait donc le cycle de 12 années de kirchnerisme, comme on dit en Argentine, Néstor Kirchner, puis Cristina Fernández de Kirchner, parce que c'est aussi Fernández.
Mais rien à voir.
Mais non, oui, il y avait beaucoup de Fernández en Argentine et dans le monde hispanique. Donc du coup, et Alberto Fernández, qui est un dirigeant politique connu en Argentine, puisqu'il a été en premier plan pendant 6 ans, au premier plan, disons, disait depuis un an et demi au moins, avant mai 2019, qu'il était convaincu que, d'abord, qu'il dialoguait avec Cristina Kirchner, alors qu'ils avaient pris des distances pendant presque 10 ans. Il était très critique des différentes orientations qu'on va appeler plus gauchissantes, disons, du gouvernement de Cristina, c'est-à-dire les impôts augmentés, etc., pour, au secteur agricole, et bon, d'autres mesures, et surtout la corruption, aussi critique des phénomènes de corruption ici et là.
Carlos Canal, est-ce que Alberto Fernández est en capacité de forger une coalition politique? Vous disiez récemment dans une interview, c'était il y a quelques jours, que précisément l'une des raisons qui explique cette incapacité de l'Argentine à sortir de cette crise systémique perpétuelle, c'était cette incapacité à monter des coalitions politiques. Est-ce qu'il est aujourd'hui en situation de la monter, cette coalition politique?
Bah, disons que, en tout cas, c'est l'homme de la situation, si on veut dire ainsi, parce que justement, l'étiquette dont on parlait à l'instant est composée par les 30 et quelques pourcents de l'électorat captif, notamment dans la banlieue de la ville de Buenos Aires, qui fait partie de la province de Buenos Aires, de Cristina Kirchner, et puis, disons, une quinzaine de points qui ont été apportés et par Alberto Fernández et par Sergio Massa, un courant qui était en scission précédemment. Et du coup, l'idée, c'est que justement, ce gouvernement avec un centriste, je dirais un péroniste centriste, qui est Alberto Fernández, qui a une grande capacité de négociation et de concertation, puisse tendre des ponts vis-à-vis de quoi? Des gouverneurs péronistes aussi, qui est une autre composante de cette coalition, les syndicats et les mouvements sociaux, très importants en Argentine, parce qu'ils sont très puissants et ils vont avoir des demandes. Ça fait partie des défis importants. Et peut-être même aller au-delà de ce que l'on pourrait appeler les camps, enfin, le secteur national développementiste, national populaire, certains disent populiste, en Argentine, qui est le péronisme, pour essayer de trouver aussi des alliances avec des secteurs de l'autre grand courant, qui est le libéral, d'ouverture néolibérale, incarné par Macri. La possibilité existe parce que personne n'a la majorité dans les chambres et pour gouverner, il va falloir trouver des accords.
Olivier Compagnon, c'est l'homme de la situation?
Je ne sais pas si c'est l'homme de la situation, mais ce qui est certain, c'est que, enfin, une des difficultés de la vie politique argentine aussi, c'est de comprendre, quand même, c'est banal ce que je dis là, mais en même temps, c'est assez important, c'est de comprendre ce qu'est cet objet politique du péronisme et son extrême malléabilité. Et, enfin, il ne faut pas oublier que les grandes années néolibérales, de la néolibéralisation de l'Argentine, ce sont les années 90, une période péroniste, justicialiste, incarné par la figure de Carlos Menem. Et c'est là que, l'Argentine a basculé dans l'orthodoxie libérale, avec notamment tous les phénomènes de privatisation et de destruction d'un certain nombre de services publics qui ne fonctionnaient pas si mal. Alors moi, je pense que l'un des enjeux, effectivement, au-delà de savoir si Fernandez va être capable ou non de négocier des alliances, l'un des enjeux est sans doute de répondre à des questions cruciales pour mettre en place une véritable redistribution dont aujourd'hui l'Argentine a besoin. Faut-il faire ce qu'a fait Chavez au Venezuela dans les années 2000, c'est-à-dire dans un contexte économique qui le lui permettait, un prix du pétrole extrêmement élevé, redistribuer dans l'urgence? Quand les gens ont faim, c'est pas mal de leur donner à manger, mais enfin, ça crée pas des systèmes de solidarité durable. Ou avons-nous la possibilité de construire, je dirais, une société plus égalitaire au travers d'un État interventionniste? Et ça suppose, on revient à une question qui a été évoquée rapidement, notamment de mettre en place une fiscalité importante, qui va être l'une des premières ressources de l'État.
C'est l'ambition qu'il a, Alberto Fernández?
Alors, dans la campagne, la question de la fiscalité a été évoquée, mais manifestement, et Carlos le rappelait d'ailleurs, est un sujet de tension très fort, entre Kirchner et, je dirais, au sein des acteurs un peu dominants de ce camp alternatif à Macri.
Alors que c'est le nœud du problème.
Alors qu'à mon avis, c'est le nœud du problème, puisque finalement, l'une des grandes caractéristiques de l'Amérique latine aujourd'hui, mais aussi dans les décennies, et je dirais presque depuis 2 siècles et demi, depuis les indépendances, c'est la faiblesse des États. C'est la faiblesse des États qui explique en particulier la difficulté à mettre en place des États redistributeurs. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. Et aujourd'hui, réinventer un État, pas forcément restaurer le modèle keynésien à l'ancienne, parce que je crois que le modèle keynésien devrait être adapté à un nouveau contexte du capitalisme international, etc. Mais en tout cas, réinventer un État redistributeur, c'est notamment répondre à cette question de la fiscalité, dont on sait qu'elle est l'une des plus basses au monde, dans les différents pays d'Amérique latine. Bon, après, il faut rentrer dans le détail de chacun des pays. Et pour moi, ça, c'est un défi politique absolument majeur aujourd'hui, en Argentine comme au Chili d'ailleurs.
Carlos Canas, je vous laisse répondre sur cette dimension qui est évidemment très très importante, cette possibilité ou non de revoir le système redistributif argentin. Et puis ensuite, je voudrais qu'on en vienne à la question du FMI, évidemment, parce qu'il y a la redistribution, mais aussi il y a aussi la question des marges de manœuvre. Et là, il faut regarder du côté du FMI. Carlos Canas.
Disons qu'on devrait peut-être presque aborder immédiatement la question du FMI.
Alors allons-y tout de suite.
Parce que, en fait, disons, la grande différence entre l'Argentine et le Chili maintenant, c'est que l'Argentine est aux prises avec un endettement extérieur élevé. Justement, les principales héritage négatif, tout à fait négatif, bien évidemment, de la période Macri. L'Argentine était à moins de 40% de dette publique sur PIB en 2014-2015.
On est aujourd'hui à
90%.
Quasiment 100%.
Donc là, c'est un changement. Et avec des lourdes échéances en 2020, 2021, 2022, 2023, pratiquement plus de 100 milliards dont l'Argentine ne pourrait pas vraiment faire face s'il n'y a pas une restructuration.
L'année prochaine, il faut donner 24 milliards de dollars au FMI. L'année d'après, 31 milliards il va falloir rendre au FMI.
Oui. Donc, et puis, mais il y a les créanciers privés. Donc, il y a toute une question très compliquée et problématique de comment on va renégocier tout ça, qui est le premier grand défi. Donc, sur le front extérieur, une position financière extérieure fragile. D'ailleurs, fragile à court terme. Si je viens de l'Argentine, tout le monde, lorsqu'on analyse en détail la situation, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait le 10 décembre, lorsqu'il y aura 2-3 milliards de réserves liquides, comme on dit, pour affronter, alors qu'il y a une échéance de 1 et quelques milliards, s'il faut les payer ou pas, s'il faut jouer sur les marges que donnent les contrats pour... Vous pouvez ne pas payer pendant 60 jours sans tomber en défaut, selon les contrats, etc., tandis qu'on négocie en même temps avec le Fonds monétaire international dans l'urgence. Il n'y a pas un an pour négocier avec le Fonds monétaire international. Il y a quelques semaines pour faire quelque chose que l'on pourrait appeler, je pense que c'est la vision du gouvernement, une espèce de choc de crédibilité. C'est-à-dire, on peut obtenir un repli sur le front extérieur. Ceci va de pair avec un accord pour 190 jours ou 180 jours, disons, en termes de prix, salaire, prix des services publics, taux d'échange, taux d'intérêt. C'est-à-dire une espèce de stabilisation de la situation, non pas pour aboutir à une inflation zéro, mais passer de 55%, très élevé, à 30%. Donc tout ça, c'est les grands défis compliqués. Et dans ces contextes-là...
C'est possible ?
Bah, disons que...
Vous y croyez, vous ?
Moi, j'y crois un petit peu parce que je crois que, disons... Il y a une grande force politique de ce président Alberto Fernández actuellement qui va au-delà de Cristina Kirchner, etc. Cristina Kirchner va jouer un rôle effacé, je peux vous l'assurer, effacé. D'ailleurs, elle est très modérée, elle propose que ça soit, c'est dans tous les journaux, Lavagne, l'ancien ministre de la première période, et elle est très très dans l'idée qu'il n'y a rien à redistribuer, donc il faut faire des choses symboliques, par exemple les retraités. Si vous regardez bien, la seule promesse effective d'Alberto Fernández, c'est regarder la fiscalité, les retraités. Ce n'est pas possible qu'on paye les taux d'intérêt si élevés qu'on paye et que les retraités aient une perte de pouvoir d'achat. Et puis d'autres choses. Et puis surtout mettre de nouveau l'Argentine debout. Debout, ça veut dire pas grand-chose, c'est général. Donc, je pense que c'est possible... Mais très compliqué. La marge de manœuvre est très étroite et la possibilité est donnée au fait que différents acteurs ne voudraient pas que ça échoue complètement, y compris Macri, qui sort de cette situation, comment dirais-je, renforcée, et ne voudrait pas que ça échoue très vite, parce que, bien évidemment, ça va être lié à ce qu'il a laissé comme pays.
Olivier Compagnon, quand j'entends Carlos Kenan, je me dis que politiquement, au fond, les conditions sont réunies pour que ça fonctionne, mais que économiquement, c'est un tel désastre.
Je suis pas complètement certain que politiquement les conditions soient réunies, parce que là encore,
Kirchner effacé, Mauricio Macri qui a pas intérêt à ce que ça rate. Bon.
Moi, ce que je voudrais, parenthèse, mais qui ne paraît pas complètement hors sujet, je suis quand même étonné que la communauté internationale n'interroge pas davantage la pertinence des choix, des politiques et des impositions un peu du FMI. Aujourd'hui, Christine Lagarde, le 1er novembre, donc avant-hier, il y a 3 jours, après vient de prendre la tête de la BCE. Christine Lagarde est bien celle qui a quand même été aux commandes lorsque ce prêt de 57 milliards
a été délivré à l'Argentine comme un miracle possible, et au fond c'est un échec total. Moi je suis interrogé, je suis quand même surpris
qu'on
interroge.
Pourquoi il a échoué Macri? 57 milliards, ça lui donnait quand même des marges de manœuvre. Pourquoi il a raté?
Ce qui se dit beaucoup, et là Carlos est plus compétent que moi pour répondre à ça, mais ce qui se dit beaucoup, c'est que pour que ça fonctionne, il aurait sans doute fallu que des investissements directs étrangers arrivent de manière plus massive et surtout plus durable. C'est-à-dire que dans les années Macri, il y a eu justement, grâce notamment aux espoirs de stabilisation entraîné par le prêt du FMI, il y a eu un retour des investisseurs, mais des investisseurs qui globalement sont restés très peu de temps, les fameux investissements hirondelles, hein, qui sont restés peu de temps et qui n'ont pas permis notamment de relancer une logique d'emploi, etc., etc. Mais simplement aujourd'hui, dans tous les cas, c'est un échec. Et moi, j'aimerais bien que on interroge à la fois la pertinence des politiques qui ont été menées, mais aussi, je dirais, la compétence des individus qui ont mené ces politiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'effrayant, je trouve, parce que nous aussi, nous sommes dans des pays néolibéraux aujourd'hui, à voir quelqu'un comme Christine Lagarde arriver à la tête de la BCE.
Carlos Canan, double échec, celui des institutions internationales, en l'occurrence le FMI, et celui des responsables argentins qui ont été dans la capacité de transformer ce prêt.
Ce prêt, disons, de 57 milliards, dont on a décaissé plus de 40 milliards, et, disons, jusqu'à présent, a été un échec parce que, d'une part, disons, on n'a pas, dans la logique même du Fonds monétaire, accompli les objectifs que l'on cherchait, c'est-à-dire la diminution du déficit public a été mais moindre que prévu, et puis les autres variables économiques, la croissance s'est effondrée, l'inflation s'est relancée. Pourquoi ? Parce que la plupart des agences économiques de poids ont considéré que la situation était très difficile, disons, et ont préféré la sortie des capitaux. Donc, ces 40 et quelques milliards ont été utilisés pour, disons, rembourser des dettes qui venaient à échéance, et puis pour soutenir le peso, ce qui n'est pas permis par les statuts du Fonds monétaire. Ça a été aussi une nouvelle, disons, voie laxiste, disons, qui a été adoptée. Et de ce fait-là, les réserves de change, finalement, n'ont pas été stabilisées, ont diminué. Conclusion, vous vous retrouvez face à une nouvelle dette sans rien. Ils auraient dû commencer par la mesure qui a été adoptée à la fin, c'est-à-dire le contrôle de change. Et maintenant, il y a même un contrôle de change durci, etc. Ce qui aurait dû être fait au début, et il n'a pas été fait.
Voilà, c'est ce qui explique aussi la défaite de Mauricio Macri. Je voudrais qu'on s'intéresse à la question du féminisme. On va retourner du côté du Chili, parce que les mouvements féministes ont été en première ligne dans les contestations qui se jouent encore aujourd'hui du côté du Chili, notamment parce que peut-être les femmes sont précisément en première ligne dans ces politiques libérales, ces privatisations des services publics, ces inégalités dont on a beaucoup parlé. On va retrouver Veronica Schild, qui est professeure à l'Université catholique de Valparaiso. Elle va nous parler de ces mobilisations féministes du côté du Chili. En quoi sont-ils peut-être différents de ceux qui ont pu exister par le passé? Comment les femmes se mobilisent? Pourquoi? Pour qui? Autour de quel thème? C'est Veronica Schild au micro de Bertille Bourdon.
What we see is and I think I want to emphasize this.
Nous voyons émerger une nouvelle génération de féministes. Contrairement aux générations précédentes, dans les mêmes milieux, ces jeunes femmes ont généralement un bon niveau d'études. Elles sont très conscientes de leur propre histoire familiale et d'où elles viennent. À l'université, elles apprennent à analyser leur époque et leur situation en tant que femmes. En assistant aux assemblées ces derniers jours, j'ai été frappé par le grand nombre de jeunes féministes qui disent « Je suis ici parce que ma mère ou ma grand-mère qui a travaillé pendant 30 ou 40 ans perçoit une retraite de misère. » Ou bien, elles travaillent pour un salaire extrêmement bas.
Or are working for very minimal wages. You know, already last year for feminists, as a new.
Les revendications féministes, en effet, ne portent pas seulement sur les droits sexuels ou l'égalité. Les sujets sont plus larges. Ils ont été évoqués dans les manifestations. Je dirais que c'est une frustration et une colère contre l'effet cumulé de 40 ans de programme néolibéral. En ce qui concerne le secteur privé de la santé, cela implique que les femmes sont considérées plus à risque par les compagnies d'assurance parce qu'elles font des bébés. Elles ne représentent pas le consommateur idéal des produits de santé parce qu'elles ont des coûts supplémentaires. Le coût de porter des enfants est directement imputé aux femmes. Alors, elles paient plus cher. Il y a donc des revendications spécifiques qui concernent la qualité du système de santé pour les femmes et le prix que les femmes doivent payer pour une assurance privée.
Puisque les marches féministes dénonçaient ces privatisations, est-ce que l'on retrouve leurs revendications dans le mouvement social aujourd'hui qui regroupe une grande part de la société ?
Je crois qu'aujourd'hui, les féministes s'inscrivent dans une mobilisation plus large. Par exemple, certaines revendications du collectif d'associations féministes Feministas Autonomas reprennent les slogans de leur manifestation de l'an dernier. Elle concerne la fin du néolibéralisme et des privatisations des secteurs de santé, d'éducation et des retraites. Elle concerne aussi la fin de la militarisation du conflit contre les peuples autochtones du sud du pays. Vous voyez, ces revendications figuraient déjà dans la manifestation féministe de 2018. On les voit maintenant dans le mouvement plus global. Ce qui me surprend dans ces manifestations pour la santé, les retraites, c'est le grand nombre de jeunes féministes et de femmes en général. Ces manifestations ne sont pas la simple convergence de gens qui veulent se réunir pacifiquement, comme on le voit dans les médias, de gens qui sortent et se rassemblent. Il y a aussi des manifestations très spécifiques. Par exemple, pour soutenir l'hôpital public. Là, vous voyez des jeunes féministes. Elles sont kinésithérapeutes, infirmières, médecins, mobilisées contre la privatisation du secteur public chilien. En ce moment, elles ne manifestent pas séparément, mais elles représentent une partie importante de la mobilisation générale.
Véronique Achild, il semble que les mobilisations d'aujourd'hui sont spontanées, sans leader. Dans ce contexte, comment s'organisent les mouvements sociaux et quelle est la place des mouvements féministes et des femmes au sein de ces assemblées ?
Ces assemblées sont une initiative sans qu'il y ait vraiment de leader. Par exemple, à Valparaiso, à Viña del Mar, où j'ai travaillé à l'université, des femmes et des hommes de Frente Amplio ont initié des rassemblements. Frente Amplio est au gouvernement local. Voilà comment cela fonctionne. Ils appellent à se rassembler dans un parc ou un quartier, cela arrive partout. Les réseaux sociaux diffusent l'information et tout le monde arrive. Je suis allé à un rassemblement où il y avait environ 120 personnes. Le premier, on devait être une cinquantaine. Nous avons été séparés en groupes de 9 personnes, la plupart des femmes d'ailleurs, et de jeunes hommes, surtout des jeunes. Les jeunes femmes commencent toujours leur intervention en disant « je suis féministe » ou « je suis lesbienne et féministe ». Et en disant en même temps « je suis ici parce que ma grand-mère perçoit une retraite de misère de 70 000 pesos » ou « parce que ma mère ne pourra jamais arrêter de travailler ». Elles partagent leurs propres réflexions sur ce qui se passe. Il y a des assemblées tous les jours. J'en rejoins une autre tout à l'heure. L'idée est de créer des espaces de dialogue. C'est ce qui se passe. Des dialogues entre des gens différents. À la première assemblée où je suis allé, des femmes plus âgées sont venues remercier les jeunes pour leur avoir donné la parole et leur avoir permis de ne plus avoir peur. Les féministes participent à des espaces de dialogue généralistes. Nous espérons que la population va ainsi comprendre qu'il faut exiger une nouvelle constitution.
Voilà, c'était Véronique Achild au micro de Bertie Bourdon. On arrive presque au terme de cette émission. Olivier Compagnon, peut-être un mot sur ce renouveau féministe. Alors, on le voit du côté du Chili, mais peut-être qu'il est plus général que ça. Elles sont en tout cas très présentes, ces femmes, dans ces mouvements sociaux qu'on voit en Amérique du Sud en ce moment.
Alors, du côté du Chili, c'est indéniable. Moi, je fréquente le Chili depuis le début des années 90. Évidemment, il existe un vieux féminisme chilien, comme un vieux féminisme argentin, qui est né à la fin du 19e siècle, autour des mouvements socialistes, anarchistes, qui a été un féminisme libéral d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et qui par exemple au Chili s'est incarné par les prises des universités par des femmes, où on avait à la fois des revendications liées à l'université, c'est-à-dire les formes de harcèlement, la place des femmes dans l'université, liées à la situation des femmes dans la société chilienne. N'oublions pas les combats incroyables que ça a été très récemment pour obtenir une loi sur le divorce, la pilule du lendemain, autrement dit des choses élémentaires pour la possibilité des femmes à disposer d'elles-mêmes. Et, comme le disait notre collègue de l'Université de Valparaiso, aussi aujourd'hui une implication des groupes féministes dans des combats beaucoup plus larges qui sortent du strict cadre de ce genre de revendications. Et c'est ça qui est intéressant et qui en fait maintenant des vraies actrices du mouvement social.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad,
ningún cañón borrará.
Voilà, c'est avec ce chant, un fameux chant de résistance à Pinochet qu'on se quitte. Merci infiniment à tous les deux, Carlos Kenan, je vous remercie doublement parce que merci. Vous descendez tout juste de l'avion, vous arrivez d'Argentine. Olivier Compagnon, un grand merci également de nous avoir accompagnés
merci
ce matin. On poursuivra évidemment notre série consacrée à l'Amérique du Sud demain, ce sous-continent sous tension. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Deux femmes d'influence ont joué des rôles essentiels dans la politique étrangère à l'époque des présidences Obama. L'une et l'autre viennent de publier un livre retraçant leur expérience. Vous nous les présentez ?
tout prédisposait Susan Rice à devenir la conseillère à la sécurité nationale qu'elle est devenue donc durant le second mandat d'Obama. Brillantissime figure du tout Washington, fille d'un gouverneur de la Fed, elle fait partie de cette nouvelle élite noire dont l'ascension aux États-Unis est spectaculaire. Quand elle rejoint la campagne d'Obama en 2008, elle a déjà une grande expérience des affaires étrangères, notamment comme l'une des directrices du Conseil national de sécurité de Bill Clinton. Dotée d'une confiance en soi à toute épreuve, elle avoue qu'elle avait décidé à l'âge de 10 ans de devenir sénatrice. Elle se définit elle-même comme une réaliste, mais c'est une femme de principe autant qu'une experte dans son domaine. Samantha Power maintenant, qui lui a succédé comme ambassadrice des USA aux Nations Unies. Elle vient d'un tout autre horizon. Née en Irlande, son métier de journaliste l'a entraînée jusqu'à Sarajevo, à l'époque où les Serbes de Karadzic se livraient au nettoyage ethnique de la Bosnie. Et quelques années plus tard, lorsque le gouvernement soudanais entama le nettoyage ethnique du Darfour, Samantha Power mobilisa l'opinion publique américaine en faveur des victimes. Elle devint l'une des figures de proue de l'interventionnisme humanitaire, si vous voulez, la Bernard Kouchner américaine. Elle a développé ses idées dans un livre qui a eu un grand retentissement et qui lui a valu d'ailleurs le prix Pulitzer en 2002, « A Problem from Hell, America and the Age of Genocide ». Le livre de Susan Rice, lui, s'intitule « Tough Love », ce qui correspond à peu près à notre expression « qui aime bien, châtie bien ». Pourtant, globalement, elle dresse un bilan positif des 8 années de la diplomatie Obama. Elle reconnaît un certain nombre d'échecs, dont elle assume d'ailleurs sa part de responsabilité, en particulier l'effondrement du Soudan du Sud, tombé dans une guerre civile d'une cruauté effroyable alors que Washington avait couvé son gouvernement. Mais elle estime que face aux grands défis internationaux de ses présidences, Obama a réagi avec le sang-froid et la prudence qui ont fait sa réputation. Le principe directeur de l'ancien président des États-Unis, eh bien, le résume en une expression assez forte pour ne pas dire vulgaire, « get shit done ». Faire le job, ne pas se dérober, aller jusqu'au bout du truc.
Mais alors justement Brice, est-ce qu'Obama est vraiment allé jusqu'au bout du truc en Libye, en Syrie ?
Eh bien Samantha Power ne le croit pas. Dans son livre qui s'appelle « The Education of an Idealist », il y a pas mal de désillusions. Droit de l'homiste de l'administration, elle confesse qu'Obama était fatigué de ses constantes exhortations à reconnaître officiellement le génocide arménien qui vient de survenir au Congrès des États-Unis la semaine dernière. « Je me soucie des Arméniens en vie, pas de ceux qu'on ne peut pas ramener à la vie », lui répondit sèchement le président Obama. Et lorsqu'elle suggère au même Obama de condamner publiquement Omar el-Béchir, le président soudanais coupable de crimes de guerre et de génocide, Obama la recadre sèchement. Et ça changerait quoi ? Est-ce que les Arabes seront avec nous ? Les Africains ? La Chine ? Non. Bon. Elle assume pleinement le rôle joué par les États-Unis dans la chute de Kadhafi en mars 2011, négligeant quelque peu le fait que ce sont tout de même les Français et les Britanniques qui se sont chargés du boulot sur le terrain. Si les Occidentaux avaient laissé le dictateur libyen nettoyer Benghazi, la Libye aurait connu, dit-elle, une guerre civile. Il est intéressant de relever que, d'après Susan Rice, l'affaire libyenne a vu s'affronter au sein de l'administration Obama les jeunes qui, comme elle-même et Samantha Power, conseillaient à Obama d'y aller, aux seniors qui, comme le vice-président Joe Biden ou le secrétaire de la Défense Robert Gates, plaidaient pour l'abstention. Et c'est Hillary Clinton à l'époque, la secrétaire d'État, qui a fait pencher la balance en faveur de l'intervention et qui en a convaincu Obama. Mais la pire frustration de sa carrière de diplomate, l'ex-journaliste Samantha Power l'a connue lorsque, après avoir précisé publiquement qu'aux yeux des États-Unis, l'usage d'armes chimiques par la dictature syrienne contre sa propre population serait considéré comme une ligne rouge entraînant des représailles sévères, Obama a fait machine arrière. Le 21 août 2013, le régime criminel de Damas lance une telle attaque contre une ville de la banlieue de Damas, Ghouta. Les États-Unis obtiennent la preuve que cette attaque a tué 1429 personnes, dont 426 enfants, mais Obama, qui estime que l'intervention en Irak est déjà un fiasco coûteux, refuse d'autoriser l'US Air Force à aller bombarder en Syrie les cibles militaires que lui proposent ses conseillers. Il tergiverse, il renonce et il accepte la porte de sortie que lui offre Poutine afin de ne pas se déconsidérer. Mais la leçon de ces deux livres, selon Peter Beinart dans Foreign Affairs, c'est que les États-Unis sont en déclin rapide, En 2011, affaire libyenne, ils ont pu contribuer au renversement de Kadhafi parce que la Russie ne pesait plus guère. En 2015, les Russes avaient déjà des troupes en Syrie. En 2019, c'est Poutine qui décide de l'avenir de ce pays dont Trump a déjà rapatrié les dernières forces américaines.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain.